Voilà, je vais faire une introduction de Jean-Philippe Toussaint. Jean-Philippe Toussaint est, après un demi-siècle,
presque,
un écrivain et un cinéaste relativement comblé par le public et la critique. Il a publié une dizaine de livres, tous publiés chez Minuit, une maison d'édition à peine plus âgée que lui, mais issu directement de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, et qui a publié, Minuit, la maison Minuit, quelques-uns des grands auteurs des années 50-70, comme Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, par exemple, hein, deux auteurs dont il a certainement parlé ces jours derniers lors d'un séminaire qu'il a donné à l'Université de Tokyo. On reconnaît la maison Minuit avec le cadre en bleu, comme ça, le cadre, et puis l'étoile avec un M qui vient directement du symbole de la résistance, minuit, la nuit, évidemment, à l'heure des étoiles. Alors, de la salle de bain, en 1985, à Fuir, que vous avez ici en japonais, en 2005, en passant par la télévision, par exemple, et quelques autres, les romans de Jean-Philippe Toussaint explorent des situations plutôt quotidiennes, contemporaines, urbaines, le plus souvent, dans lesquelles il fait apparaître, parfois sérieusement, parfois de façon ironique, comique, l'absurdité ou l'instabilité des identités et des relations humaines. Une certaine ironie, un ton particulier et une grande attention portée sur le langage l'ont rendu reconnaissable et cher à un public moyennement intéressé par les romans historiques ou psychologiques, point de suspension. Il est aussi cinéaste. Il a d'abord écrit le scénario de La salle de bain en 1989, puis il a réalisé lui-même plusieurs films, dont Monsieur et dernièrement La patinoire. Il avoue de temps en temps que c'est même pour être cinéaste qu'il avait commencé. Il est également passionné de football, ce qui sera peut-être le sujet dominant de la rencontre d'aujourd'hui. À ce titre, comme passionné de football, il est venu au Japon en 2002 pour assister à plusieurs matchs de la Coupe du Monde de football. Et pour ne pas être trop long, j'ajouterai juste que quand je regardais la finale de cette année, qui opposait l'Italie à la France, je ne savais pas que Jean-Philippe Toussaint était dans les tribunes du stade de Berlin et qu'il ferait un livre sur ce sujet, évidemment. Voilà, Jean-Philippe Toussaint, avez-vous des corrections ou des précisions supplémentaires à apporter à cette présentation ?
Oui, mais d'abord, je voudrais vous saluer tous ici. Je voudrais vous dire la joie qui est la mienne d'être avec vous et vous signaler, chose remarquable, que ce soir, c'est la première fois que je fais une présentation de ce livre, La mélancolie de Zidane. Alors évidemment, ce n'était pas prévu. Je n'avais pas pensé que la première serait réservée à Nagoya. C'est un hasard, mais il se trouve que c'est comme ça. Le livre est sorti le 9 novembre en France, à Paris. Et moi, dès le 24 novembre, je suis parti au Japon. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'aller faire des présentations dans des librairies ou dans des lieux publics en France ou en Belgique. Et donc, et au Japon non plus, j'ai pas parlé de ce livre. Et donc, ce soir, c'est la première fois. Et donc, je suis très content de partager ça avec vous. Ce soir. Alors pour répondre à la question de notre ami Rebollard, moi non plus je ne savais pas que je serais dans les tribunes, c'est-à-dire que j'ai été à Berlin mais sans billet pour la finale, parce que c'était extrêmement difficile d'obtenir des billets, et donc je me suis quasiment ruiné pour obtenir un billet de façon extrêmement difficile, extrêmement rocambolesque. J'ai fini par obtenir une place pour la finale, mais donc ça a été très difficile. Donc moi non plus, je ne savais pas, étant à Berlin, que je pourrais assister à cette finale. Et évidemment, moi non plus, je ne savais pas que j'écrirais un livre. Et ça a été évidemment la grande surprise pour moi qu'à l'issue de cette finale paraîtrait un petit livre comme ça, La Mélancolie de Zidane. C'était aussi pour moi une très grande surprise. Enfin, encore une petite chose. C'est vrai que j'étais venu au Japon en 2002 pour suivre la Coupe du Monde de football avec l'idée d'écrire des textes et de faire des photos. Et en fait, qui était destiné à un certain nombre de journaux en Europe, Libération en France, Frankfurter Rundschau en Allemagne, et puis ces articles sont également parus dans la revue Subaru au Japon. Et en 2006, lors de la coupe en Allemagne, j'avais la même idée, donc je suis parti à Berlin, je me suis installé 2 semaines à Berlin pendant la Coupe du Monde. Aussi parce que j'ai écrit des articles pour le même journal allemand. Je les ai envoyés aussi à la revue Subaru. Et également, j'ai changé en France, j'ai passé de Libération à l'Équipe Magazine. L'Équipe Magazine est le grand journal sportif français. Et je partais là, en effet, pour voir les matchs de football, parce que j'aime le football, mais aussi avec une idée de travail. Mon idée était plutôt de faire des chroniques. Et évidemment, la grande surprise, c'est pour ça que c'est une surprise, c'est qu'une petite livre soit paru. Mais ça, il y a des choses qui se sont passées pendant la finale que je ne pouvais pas prévoir.
Alors, vous publiez cet automne La Mélancolie de Zidane, un ouvrage très court dans lequel vous évoquez le geste surprenant de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde lorsqu'il donne un violent coup de tête dans le torse de son adversaire italien Materazzi. Il faut bien préciser dans le torse et pas dans le nez, par exemple. Ce qui entraîne son expulsion et donne un tour spécial à la fin de sa carrière. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à écrire ce livre, sachant que des millions de discours ont été tenus sur ce geste de Zidane, que la presse l'a plutôt critiqué sévèrement, Zidane, hein, très loin d'une quelconque mélancolie. En quoi cela intéresse-t-il ou concerne-t-il un écrivain comme vous ?
Alors, la première chose, c'est que j'étais dans le stade olympique de Berlin le soir du 9 juillet et que je n'ai pas vu le geste de Zidane. Et que, je dirais, comme les 80 000 personnes qui étaient présentes, comme les arbitres, le geste de Zidane, on ne l'a pas vu. Pourquoi on ne l'a pas vu ? Parce que le match avait recommencé et donc nous, on suivait le match. On regardait le ballon, on regardait les joueurs, on ne regardait pas Zidane. Et donc, en fait, c'est un paradoxe que ce geste que tout le monde a vu à la télévision, dont on a parlé d'abondance dans les semaines qui ont suivi, il fallait y être pour ne pas l'avoir vu. Ce qui déjà me semble un paradoxe intéressant et peut susciter une réflexion pour un écrivain. Alors, deuxième élément de réponse, j'ai fait ce texte que je considère comme un geste littéraire, donc que d'une certaine façon j'oppose au geste de Zidane un geste de littérature. Et ça m'intéressait de prendre comme objet, comme sujet, quelque chose lié à quelque chose de tout à fait contemporain. Parce que comme écrivain, je me suis toujours intéressé au monde contemporain. Je crois que la mission de l'écrivain, c'est d'avoir un regard sur le monde contemporain. C'est la chose la plus intéressante pour moi. Et donc, c'est pratiquement complémentaire de s'intéresser à quelque chose que tout le monde a vu d'une certaine façon. Je crois que cet événement, cette finale de la Coupe du Monde, elle a été vue par peut-être 1 milliard de téléspectateurs, je n'ai pas les chiffres exacts, mais le monde entier l'a vu, le monde entier l'a commenté, et donc qu'un écrivain contemporain s'intéresse à un événement contemporain me semble tout à fait logique. Et c'est plus, je dirais, le contraire qui serait étonnant. Ce serait un écrivain qui ne s'intéresserait pas au monde. Donc de ce point de vue-là, je me sens tout à fait en phase de m'intéresser à quelque chose qui est du domaine de l'actualité. Mais je ne porte pas un regard de journaliste. Dès lors que ce texte paraît dans une plaquette comme cela, dans une maison d'édition très littéraire, c'est transformé. Ce qui aurait été un simple article devient un texte littéraire. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de geste littéraire. Donc, en fait, avant même que le geste de Zidane n'ait lieu, j'avais l'idée de faire un recueil d'articles sur le football. J'avais l'idée de réunir les textes que j'avais écrits, parce que j'avais écrit déjà en 98, Libération, le journal Libération m'avait demandé d'écrire un texte sur l'équipe de football de Belgique. Ils avaient demandé à un écrivain par pays, donc de parler de l'équipe de son pays. Donc on m'avait demandé d'écrire un texte sur l'équipe de Belgique. J'avais donc, comme je vous l'ai déjà dit, en 2002 suivi la Coupe du Monde au Japon pour différents journaux, donc j'avais accumulé un certain nombre de textes. Ensuite, il y a un éditeur japonais qui m'avait demandé d'écrire une préface pour un livre de photos qui s'appelle Le football et le Japon. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce texte, et en fait le projet n'a pas abouti. Le livre n'existe pas, mais donc j'ai gardé ma préface, et donc j'ai un texte assez long sur le football et le Japon. Et puis il y avait ces textes que j'ai écrits à Berlin, et je me disais, je vais terminer ce recueil par un texte où je vais évoquer la finale de la Coupe du Monde. Et évidemment, je ne savais pas du tout que cet événement allait survenir. Et je ne savais pas du tout qu'ensuite me viendrait ce texte-là. Et une fois que j'ai écrit ce texte-là, je me suis dit, est-ce que c'est bien la peine de rajouter tous les autres textes? Est-ce que ça ne l'affadirait pas? Est-ce que justement il ne serait pas plus fort comme geste littéraire seul? Et que finalement ce qui aurait été simplement un ensemble, un recueil de mes chroniques, ça prenait une autre dimension si on publiait ce livre avec sa brièveté même, ça avait une force beaucoup plus grande. Et comme le texte, je crois, avait son originalité, que j'ai reçu des encouragements de la part de mon éditeur et des quelques personnes qui l'avaient lu, j'ai pensé que c'était plus fort de le publier seul et donc d'oublier cette idée de recueil sur le football. Mais pas au départ, ça aurait dû être le dernier texte d'un recueil plus large de textes sur le football. Alors encore un mot sur ce recueil qui n'existe pas. J'avais réfléchi à la tonalité que je voulais lui donner. Et en fait, bon, il y a d'abord quelque chose d'assez léger et humoristique, parce que les textes que j'ai écrits pour Libération étaient plutôt légers et plus faisaient penser aux textes que j'ai écrits dans Autoportrait à l'étranger. Il y avait une tonalité légère, humoristique, etc. Mais il y avait aussi quelque chose qui était déjà légèrement mélancolique, et il y avait une dimension liée à la poésie. D'une certaine façon, je voulais relier le football et la poésie. Et je voulais même mettre un texte qui est inédit, enfin, qui n'est paru que dans une revue qui s'appelle Inventaire Invention, qui était un texte sur Kyoto, et un texte plus sur le passage du temps, avec une sorte de poème en prose sur la rivière Kamo. Et je voulais l'intégrer aussi parce qu'il y avait certains textes, le football et le Japon, qui pouvait se marier très bien avec ce texte qui n'avait rien à voir avec le football, mais beaucoup plus avec la poésie et la mélancolie. Et d'une certaine façon, il y avait déjà cette tonalité mélancolique, je l'avais d'une certaine façon déjà trouvée. Donc c'était un peu pour préciser comment aurait dû être ce recueil.
Alors l'accueil critique en France de votre livre a été de deux types. Il y a ceux dont je fais partie qui sont contents de voir un texte qui propose une formulation littéraire recherchée à partir d'un événement sportif et médiatique, qui perçoivent des allusions stimulantes ayant pour but d'inscrire ce geste de Zidane dans d'autres problématiques. Et puis, il y a ceux qui disent que vous profitez opportunément de l'occasion et de votre notoriété, et que vous ne vous êtes pas fatigué sur la longueur du texte, ou pour romancer, étoffer le personnage. Qu'est-ce que vous répondez à ces derniers? Comment défendez-vous à la fois la teneur du texte et le choix de la brièveté, même si on a déjà un peu répondu?
Oui, j'ai voulu répondre au geste, j'ai déjà dit, au geste de Zidane, par un geste littéraire. Et j'essaie de trouver une formulation original à ce geste littéraire, c'est-à-dire de la manière de ce texte est extrêmement importante. J'ai beaucoup réfléchi à, non pas à ce que j'allais dire. Il y a, par exemple, le texte n'est pas du tout un texte de journaliste. Il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a aucun jugement moral. Je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Il n'y a même pas de jugement esthétique. Je ne fais pas ce qui aurait pu être une facilité de dire c'est un geste sublime ou quelque chose comme ça. Je suis bien au-delà du jugement du geste. Le geste est là, il est irréductible, et je veux proposer quelque chose d'aussi irréductible, qui est un geste littéraire. Et ce que j'ai proposé, en fait, est ni réellement de la fiction, ni véritablement un essai, mais tout à la fois de la fiction, un essai, de la poésie, de la philosophie, de la critique littéraire, puisque je reviens beaucoup sur un des textes, le premier roman que j'ai écrit, La salle de bain, et de la psychanalyse. Et donc, j'ai essayé de dans un texte très court, et pour moi c'est une de ses qualités majeures, de réunir tout ça, et que le texte ne peut pas être beaucoup plus long que le geste de Zidane, qui est évidemment très court, lui, le geste. Mais aussi, c'est vrai, j'ai entendu comme ça, de loin, quelques ricanements ou quelques critiques paresseuses qui ne s'attachaient que à la brièveté du texte. Et ça mériterait peut-être un retour de service bien senti, quelque chose, une petite réponse assez sèche. Et je réfléchissais même, j'ai déjà trouvé le titre d'un petit livre encore plus court que je pourrais écrire, qui s'appelle « Le scandale de la brièveté ». Et je pourrais en effet faire un texte assez théorique pour dire que plus rien ne fait scandale. Au XIXe siècle, Baudelaire avait été attaqué, Flaubert avait été attaqué pour des raisons de moralité, pour des raisons de scènes trop explicitement sexuelles, des choses comme ça, et que maintenant, pratiquement, ça ne choque plus personne, il n'y a plus grand chose, je dirais, qui peut encore faire scandale. Et justement, à entendre certaines critiques, je me demande si la brièveté ne pourrait pas être quelque chose de scandaleux.
Quand c'est vendu.
Quand c'est vendu à un prix défiant toute concurrence. Qu'est-ce qui se passe ? On peut être au courant.
Non, c'est pour écrire les noms des sites internet.
Ah ! Alors, je continue mon intervention en disant... En fait, je crois que la brièveté dérange parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est pas la norme. Et tout ce qui sort de la norme est attaqué. Je me souviens, c'est quand même quelque chose de... Il y aurait de quoi avoir une vraie réflexion sur ce scandale de la brièveté. Je me souviens, il y a 20 ans, quand j'ai fait paraître mon premier roman, La salle de bain, il ne faisait que 128 pages. Et j'ai reçu beaucoup de lettres de refus d'éditeurs qui disaient « Mais ce n'est pas un roman, ce n'est pas la longueur d'un roman. Un roman, ça doit faire à peu près 250 pages. » Ils disaient « Mais c'est une longue nouvelle. » Et donc il y avait une sorte de... Ce n'était pas la norme. Or, mon éditeur a accepté de publier la salle de bain, ce court roman, et d'une certaine façon, c'est devenu la norme. C'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de courts romans, de textes qui faisaient 128 pages. De publier des plaquettes comme ça, très courtes, c'est en effet pas l'usage. Alors en effet, puisque c'est pas l'usage, puisque c'est pas la norme, on critique, on ricane, on s'attaque. Mais en même temps, ça pourrait être une norme intéressante. Et moi je pense qu'il pourrait y avoir des textes qui ont peut-être la force de tenir la brièveté. Parce que être bref demande infiniment d'efforts. Je ne crois pas que ça demande pas... J'aurais pas eu beaucoup plus de mal à écrire 40 pages de plus. La question de la brièveté demande aussi beaucoup d'efforts.
En fait, on le sait assez peu, mais vous avez déjà publié de nombreux textes brefs. On a parlé tout à l'heure d'un texte sur la revue Inventaire Invention. Il s'agit d'une revue qui est uniquement sur Internet. C'est un site Internet qui s'appelle Inventaire Invention. Je ne sais pas l'adresse exactement, mais vous pouvez la trouver facilement avec Google, par exemple. Il y a des textes en revue, et notamment une revue, s'il y en a d'autres, une revue qui s'appelle Bon à tirer, qui est un terme technique de l'édition, et qui se trouve en accès libre sur Internet également. Vous avez aussi publié des chroniques dans des journaux japonais, on en a parlé, sur le football. Est-ce que c'est une forme d'engagement, une volonté de votre part, de délivrer des messages en quelque sorte plus directs à travers les revues, plus rapides qu'avec les romans, ou est-ce que c'est la réponse concédée à des sollicitations des médias ? Et ne devriez-vous pas seulement vous concentrer sur vos œuvres majeures ?
Oui, je dois dire que je crois que je ne me trompe pas de priorité. L'essentiel de mon énergie est consacré à mes romans. Mais ça ne m'empêche pas, c'est pas parce que l'essentiel de mon énergie est consacré à mes romans que je dois être complètement coupé du monde. Donc ça ne m'empêche pas de temps en temps d'avoir quelques ouvertures sur le monde. Il y a ces ouvertures avec le Japon, et là c'est vrai que j'ai été sollicité. Il y a eu des demandes de revues ou de journaux japonais qui m'ont demandé des textes. Il y a l'ouverture aussi avec Internet, qui me semble un moyen, notamment cette revue belge qui s'appelle Bon à tirer, avec qui j'ai eu une collaboration très fructueuse pendant 3 ou 4 ans, et donc à qui j'ai donné 10 textes. C'était une vraie... c'était extrêmement original, parce que les textes étaient diffusés uniquement sur Internet. C'était d'une certaine façon une revue pionnière en la matière. Et puis aussi, bon, comme je l'ai déjà dit, l'ouverture sur le monde contemporain et donc aussi sur le football. Mais, je le répète, je ne me trompe pas de priorité.
Alors, les textes publiés dans la revue Bon à tirer s'intitulent tous « Le jour où quelque chose ». Le jour où j'ai commencé à écrire, le jour pas si lointain où j'ai assisté à la Coupe du Monde de football, etc. Suivi de quelque chose que vous avez fait ou qui vous est arrivé. Pourquoi la mélancolie de Zidane ne s'appelle pas « Le jour où je n'ai pas vu que Zidane il a frappé » ?
Ben, c'est vrai qu'un des textes, « Le jour pas si lointain où j'ai assisté à la finale de la Coupe du Monde de football », racontait, est un texte que j'ai écrit après la finale de la Coupe du Monde de 2002 à Yokohama. Et donc à cette époque-là, je travaillais avec cette revue, et maintenant la collaboration est terminée. Et puis la réponse à la question, je pense qu'il y a vraiment une différence de registre, de tonalité entre les deux textes, que celui écrit en 2002 était mineur, mais n'a pas eu aussi le même relief, et l'événement qui s'est passé, le coup de tête de Zidane, a aussi une dimension tout autre, et la finale de la Coupe 2002 a donné lieu à moins de commentaires aussi. On a épilogué sur le coup de tête de Zidane et on a bien plus parlé presque que de la finale. Et donc il y a quand même eu quelque chose de remarquable qui s'est passé en 2006 et donc qui, encore une fois, moi m'a amené à trouver un geste littéraire qui pourrait être l'équivalent du geste de Zidane.
Alors plus sérieusement, presque en même temps que votre livre, une femme de théâtre qui s'appelle Anne Delbé a fait paraître un livre intitulé « La 107e minute » et pour expliquer que le geste de Zidane reproduisait très précisément des structures de la tragédie antique. Et puis il y a beaucoup d'autres ouvrages sur le football de la part de grands écrivains. Quel est cet intérêt que des écrivains manifestent pour le sport et quel est le vôtre personnellement? N'est-ce pas seulement pour profiter de la popularité du sport aujourd'hui ou y a-t-il vraiment une relation entre sport et écriture?
Moi je suis plutôt frappé par le fait qu'il y a assez peu de livres, de littérature qui s'intéressent vraiment au sport. Que les liens entre la littérature et le sport sont assez ténus, qu'il n'y a pas grand-chose finalement. Sinon pour la première partie de la question, c'est que moi je me suis toujours intéressé au football mais pas vraiment comme écrivain, c'est-à-dire que les textes, les chroniques que j'ai écrites, bon bien sûr j'étais un écrivain ou aussi un photographe, j'ai fait des photos aussi, mais c'était pas la dimension majeure. Là je pense avec ce texte-là, la façon dont il est présenté aussi, la façon, le choix de l'éditeur des éditions de Minuit qui décide de faire une petite plaquette, ça a une importance symbolique très forte aussi. Là, je pense que c'est complètement un geste d'écrivain. Et là, en effet, je suis... Il y a une sorte de responsabilité d'être un écrivain. Le titre même, le fait d'utiliser le nom de Zidane, il y a une responsabilité de l'écrivain. Donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi évidemment au texte, parce que je réfléchis toujours à mes textes quand j'écris, mais aussi à la résonance, aux répercussions que le texte pouvait avoir. Et je pense que c'est intéressant d'intervenir par ce geste littéraire très, très calculé, très pensé, justement dans la question du genre, parce qu'il n'appartient à aucun genre particulier. Je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment un essai, c'est pas évidemment un roman, c'est pas de la poésie. Donc le genre est une réponse aussi. Donc d'une certaine façon, il y a quelque chose d'assez conceptuel. Alors à la fois, je m'attaque à quelque chose de très concret que des millions de gens ont vu. Je parle de football, ce qui est vraiment presque de façon populaire, l'écrivain presque populaire. Et d'un autre côté, la démarche est très conceptuelle et donc d'une certaine façon s'adresse à très peu de gens. Donc il y a une sorte de grand écart entre ces deux attitudes.
Alors vous insistez beaucoup sur le ciel de Berlin. Je vais peut-être lire la première page avec le micro.
Zidane regardait le ciel de Berlin sans penser à rien. Un ciel blanc nuancé de nuages gris aux reflets bleutés. Un de ces ciels de vent immense et changeant de la peinture flamande. Zidane regardait le ciel de Berlin au-dessus du stade olympique le soir du 9 juillet 2006. Et il éprouvait avec une intensité poignante le sentiment d'être là, simplement là, dans le stade olympique de Berlin, à ce moment précis du temps, le soir de la finale de la Coupe du Monde de football.
Merci. Vous insistez dans le reste du texte, plusieurs fois encore, sur le ciel de Berlin. Et vous parlez aussi beaucoup de Berlin dans le roman La Télévision, puisqu'il est situé à Berlin. Et vous avez réalisé un film sur Berlin, que je n'ai pas vu malheureusement. Quelle est votre relation avec cette ville? Et pourquoi le ciel, son ciel, le ciel de Berlin, a-t-il cette importance pour vous? Que voulez-vous nous dire aussi à travers le ciel de Berlin?
Ben d'abord, j'évoque le ciel, le vrai ciel. Le passage que j'ai lu, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que je ressentais. Lorsque, je ne sais pas ce que ressentait Zidane, de certaines façons, ce n'est pas mon problème, mais moi, comme écrivain, ce que je ressentais, c'était ce sentiment de mélancolie. J'ai beaucoup regardé le ciel à ce moment-là, et donc tout ce que je décris, tout le premier paragraphe où je dis Zidane, 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 en fait, c'était moi. Mais ça, c'est tout à fait normal pour un écrivain. Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Eh bien, moi, je dis maintenant « Zidane, c'est moi ». Et je le prouve puisque je lui prête tout ce que j'ai ressenti. Et donc, ça, ce premier paragraphe, c'est Zidane qui ressent ceci. Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien, ce que pense Zidane. D'ailleurs, c'est même pas mon problème de savoir ce qu'a vraiment pensé Zidane. Zidane est un prétexte à l'écriture et je le remplis en disant ce que moi j'ai ressenti. Et donc ce premier paragraphe, c'est tout à fait ce que moi j'ai ressenti avec cette présence du ciel de Berlin. Mais je dirais que ce ciel était vraiment concret. C'est pas un ciel symbolique. Parce que c'est vrai que Berlin est une ville chargée de symboles, chargée d'histoire. Le ciel de Berlin aussi pourrait être chargé de symboles. Pour moi, c'était la vraie présence du ciel et d'avoir remarqué ce ciel aussi. Dans ce stade où il y avait quand même des choses qui se passaient très intéressantes, cette finale de la Coupe du Monde, le stade est ouvert et c'est vrai que pour moi le ciel était là aussi et j'ai senti quelque chose qui était du registre de la mélancolie, indépendamment à ce moment-là de ce qui allait se passer pour Zidane. En fait, dans ce texte aussi, je continue comme toujours de faire mon travail d'écrivain, et lorsque je dis Zidane, c'est aussi une invention. Alors évidemment, je m'inspire de certaines choses qui se sont réellement passées avec Zidane, et j'étais très attentif à des actions de Zidane, mais en même temps, il y a toute une partie où je le recrée, où je l'invente. Et ici, Zidane est autant une invention d'écrivain que le véritable personnage de Zidane.
Je vais faire passer une photo qui est une page parue dans le magazine Les Inrecuptibles, où on voit en fait deux photos de Jean-Philippe Toussaint et en haut, celle du stade sur fond de nuages, de ciel, et on peut comprendre aussi pourquoi ça l'a intéressé.
Mais c'est des reproductions de qualité très moyenne.
Hein. Oui, malheureusement. Hein. Alors j'ai remarqué que beaucoup de vos livres et de vos films proposaient des scènes comiques, on en parlait tout à l'heure, des gags ou des jeux de mots subtils, mais que récemment ces jeux avec les personnages, les situations et les mots avaient tendance à diminuer, voire presque à disparaître, comme dans Faire l'amour ou dans Fuir. Est-ce que c'est une tendance volontaire ? Est-ce que c'est un changement dans votre appréhension personnelle ou philosophique de la vie humaine ?
Une page de publicité.
On attend le vidéaste. Si quelqu'un veut faire une pub.
Fuir
en l'air. Fuir en l'air là-bas.
Fuir là-bas, fuir.
Ça y est.
C'est vrai que la dimension humoristique est moins présente dans mes deux derniers livres, Faire l'amour et Fuir, que c'est une sorte d'évolution, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour moi le fait qu'il y a d'autres priorités. D'une certaine façon, dans un livre comme La télévision, qui est celui qui précède, l'humour était une vraie priorité, c'est-à-dire que pour moi, une page réussie était une page drôle. Les priorités ont changé, c'est-à-dire que pour faire l'amour, il y a une dimension poétique plus grande. Pour fuir, il y a encore autre chose, il y a une recherche d'énergie. Les priorités changent un petit peu, et c'est vrai que l'humour, dans mes livres, est moins présent. Mais la critique a assez bien reçu en fait ces deux livres. Généralement, on n'aime pas trop qu'un écrivain change de registre. Lorsqu'une fois ça m'était arrivé après mes premiers livres d'avoir écrit un livre sans humour ou avec moins d'humour ou une autre tonalité qui était la réticence, il y a eu un accueil critique très négatif.
Très réticent.
C'est pas du tout le cas avec Faire l'amour et Fuir. Au contraire, je dirais, j'ai presque jamais eu un accueil critique aussi enthousiaste. Mais pour moi, je ne crois pas que ça traduise un changement dans ma propre vie ou dans mon propre tempérament. C'est plus une question de priorité différente. C'est-à-dire que il m'arrive encore d'imaginer ou d'écrire des pages très drôles, mais elles ne correspondent plus à la tonalité générale. Je suis obligé de les supprimer ou de les garder pour moi. Donc je suis obligé de rire tout seul et j'en fais plus profiter tout le public, quoi.
C'est-à-dire publié sous pseudo.
Oui. Et j'en profite pour signaler la sortie de mon dernier livre, Fuir en japonais, qui vient de sortir. Il est sorti, je crois, il y a 2 semaines en japonais. Et ce livre est sans doute celui qui a eu le meilleur accueil en France. Bon, il est vrai que j'ai reçu un grand prix littéraire, ce qui fait que les ventes ont été beaucoup plus grandes que d'habitude, mais aussi l'accueil critique. C'est-à-dire que ce livre est sans doute, j'ai le sentiment, celui qui a été le mieux accueilli, et je dirais presque de façon paradoxale, parce que je ne crois pas que ce soit un livre particulièrement facile. Je pense que c'est un livre qui est plein d'énergie, parce que pour moi la priorité c'était ça, c'était l'énergie. C'est un livre qui est plein de mouvement, d'énergie, et d'une certaine façon ce que j'ai essayé de faire, c'est que lorsqu'on le commence, on est pris par une sorte de rythme, de mouvement, et qu'on ne peut pas le quitter d'une certaine façon, et que cette énergie est quelque chose de très très difficile à faire en littérature, que finalement la plupart des livres sont statiques. C'est normal, les pages d'un livre ne bougent pas, les caractères ne bougent pas, tout ça a l'air très statique, très immobile, et pour qu'il y ait une énergie qui passe entre ces pages immobiles, ces caractères immobiles, ces lignes immobiles et l'esprit du lecteur, il faut que créer quelque chose de tout à fait mystérieux. Et c'est ça que j'essaye de faire, d'enfuir, c'était ça que j'ai essayé de faire, c'est de trouver ce courant comme un courant électrique qui va passer entre les lignes immobiles et l'esprit du lecteur.
Bien, c'est sur cette décharge d'énergie que nous allons passer la parole à l'assistance. Si vous avez des questions, réfléchissez-y. On va commencer.
Vous avez dit que quand vous étiez au stade de Berlin, personne n'a vu directement le geste de Zidane. C'est seulement les spectateurs de la télé qui a vu ce geste à travers les images diffusées. Mais je crois que la même chose s'est passée au moment de l'attentat de 11 septembre, par exemple. C'est-à-dire, les policiers qui étaient sur place ne savaient pas du tout est-ce qu'il y a un avion ou deux avions, est-ce qu'il y a un deuxième tour a été écoulé ou pas. Et c'est seulement les spectateurs de la télé qui a réussi à observer la télé. Donc, est-ce que vous pensez que dans le phénomène autour de ce geste de Zidane, il y a quelques éléments, un élément typique à l'âge médiatique, où vous croyez que dans ce phénomène-là, il y a quelque chose qui est originaire, qui est lié au foot ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est un rapprochement très intéressant, vous avez tout à fait raison. Et je pense que, oui, il y a quelque chose à voir qui est tout à fait typique de l'âge médiatique. Je crois que vous avez raison. Moi, j'ai surtout retenu ce paradoxe qui est très gênant pour moi. C'est qu'on est obligé de faire confiance à une représentation de la réalité que généralement je condamne. La télévision est une représentation de la réalité. La télévision n'est pas la réalité. C'est une représentation de la réalité très sujette à caution. Et pourtant, on est obligé de faire confiance à cette représentation de la réalité plutôt qu'à nos sens, plutôt qu'à mes yeux, plutôt qu'à ce que j'ai vu. Je suis obligé, sinon j'aurais l'air d'un fou, de dire, mais écoute, si, je serais un fou si je disais, moi j'étais à Berlin, en fait, il ne s'est rien passé, ce que vous avez vu c'est faux. Là, ça devient quelque chose de délirant. Il y a des gens qui ont une sorte de théorie comme ça, de complot. J'aimerais bien défendre cette position. Mais malheureusement, elle est intenable. Et donc, c'est un paradoxe qui est très prenant pour moi. Comment suis-je obligé de faire confiance à une représentation de la réalité plutôt qu'à ce que j'ai vu? Mais donc, en fait, si j'ai pu m'interroger... Et si je me suis interrogé, si toutes ces réflexions ont eu lieu, c'est parce que j'étais au stade. Et en fait, c'est parce que je n'ai rien vu. Et que d'une certaine façon, heureusement, le fait de n'avoir rien vu est une chance. Et on pourrait presque dire un luxe. C'est parce que je n'ai rien vu que je me suis interrogé. C'est parce que je n'ai rien vu que j'ai écrit ce livre. Si je l'avais vu à la télévision, je pense que je n'aurais rien écrit. Donc il y a quand même une chance, un luxe, d'être en contact avec la réalité. Et que finalement, tout le monde n'a pas eu la chance de ne rien voir, si on peut dire. Ouais, tout le monde n'a pas eu la chance de ne rien voir, à ce prix-là, en plus, au prix exorbitant que j'ai payé. C'est secret. Mais je poursuis encore la réflexion. C'était une réflexion que j'avais déjà entamée dans mon roman La Télévision, que même si on voit moins bien, lorsque, par exemple, on suit une étape du Tour de France, changeons de sport, le cyclisme, on va voir une étape du Tour de France, évidemment, on ne voit rien. On est au bord de la route, on attend pendant 2 heures, ils passent à toute vitesse, les coureurs, on n'a rien vu, alors qu'à la télévision, on a tout vu. Et bien pourtant, l'expérience de vie, ce qu'on a vécu, est infiniment plus intéressant en ne voyant rien, en n'ayant rien vu, mais d'y avoir été. Et ça continue à être une vérité. Et donc ça, c'est quand même, heureusement, il reste une vérité encourageante et qui conforte mon optimisme naturel. Et un dernier point, peut-être que si je n'ai pas écrit sur le 11 septembre, c'est parce que j'ai tout vu à la télévision, et que si j'avais rien vu sur place, je suis sûr que j'aurais écrit quelque chose. Si j'avais survécu, évidemment.
D'autres questions ?
Bonsoir, je suis professeur de français. Je retiendrai ce que vous ne connaissez pas avant, donc j'ai un petit peu honte, mais de cette soirée, je retiendrai que Zidane est venu jusqu'à Nagoya, puisque vous nous avez dit que Zidane, c'est moi. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez rencontré Zidane ? Est-ce que vous avez eu l'autorisation d'utiliser son nom ? Parce que c'est quand même un peu spécial, je pense, puisqu'il est vivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Bon, avant de raconter des anecdotes, j'aborde la question sérieuse de l'autorisation. C'est vrai que c'est une question sérieuse. Bon, nous n'avons pas demandé l'autorisation, mais on a évoqué la question avec les éditeurs, l'éditeur, et le directeur commercial, etc., de savoir que nous prenions le risque, en effet. Nous ne sommes pas les premiers d'avoir parlé de Zidane dans les journaux ou dans des livres. Mais la question intéressante, c'est que Zidane est devenu un produit. Et un produit qui a une valeur marchande et qui aurait pu, heureusement ça ne s'est pas passé, censurer un écrivain contemporain pour une simple question d'argent. Et là, on serait arrivé au deuxième scandale, après le scandale de la brièveté, le scandale du commerce. C'est-à-dire qu'on m'aurait interdit de parler de Zidane ou d'inventer Zidane parce que je n'avais pas payé. Et là, ça aurait été encore plus, emblématique de nos temps actuels, c'est-à-dire que pour parler de Zidane, il faut payer. Alors, heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça aurait pu, et le risque, enfin, on s'était presque préparé à ce risque. Alors, pour ce qui est du vrai Zidane, il est en Algérie, donc il est excusé. Ou enfin plutôt, je vous prie de l'excuser, il est en Algérie, Zidane. S'il était venu au Japon à cette période-ci, je pense qu'il serait venu à Nagoya. En tout cas, je lui ai écrit pour lui envoyer mon livre par courtoisie, et je lui ai dit que j'irais au Japon, puisque je partais au Japon, et que si on pouvait se rencontrer, ça serait très bien de le faire au Japon. Mais comme il est en Algérie, malheureusement, il n'est pas avec moi.
D'autres questions ?
J'ai une étudiante qui cherche un livre amusant à lire. J'ai eu la question ce soir. Est-ce que vous conseillez télévision, que je ne connais pas? Est-ce qu'elle va rire si elle lit ce livre? Est-ce que c'est possible de lire assez facilement votre roman?
C'est un tout petit peu délicat pour moi de le conseiller, mais enfin, oui, je pense. Normalement.
Vous savez donc écrit un peu les livres en internet aussi. Quelle est la différence entre vos écrits pour les livres et sur l'internet?
Comme je vous l'ai dit, je ne me trompe pas de priorité. Toute mon énergie va à mes romans. Mais c'est vrai que j'ai été très curieux de ces revues sur Internet parce que c'était une diffusion très intéressante. On constate en France un peu l'érosion ou même la disparition en fait du lectorat des revues. C'est vrai que par exemple il y a 30 ans un tel texte, La Mélancolie de Zidane, aurait pu paraître dans une revue, il aurait pu être lu et commenté. De nos jours, si je l'avais donné à une grande revue, les grandes revues type NRF, c'était le condamné, c'était comme si je le mettais à la poubelle. Personne ne lit, en tout cas ça n'a aucun impact. Et ces revues sur Internet me semblaient très intéressantes parce que justement c'était un lectorat très éclaté, très international. Quelque chose de très nouveau, et donc c'est une expérience qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai arrêté maintenant. Ça fait deux ou trois ans que j'ai arrêté, mais pendant un moment c'était quelque chose de très nouveau. Alors dans n'y a pas de différence vraiment d'écriture non plus. C'est pas parce que j'écris sur Internet que ton écriture change. C'est quand même le même travail d'écriture.
Il y a peut-être une dernière question, et puis après on pourra faire signer des livres. On n'entend pas au micro.
Donc on comprend très bien. Hein.
Ah oui, ça va. Fuir est en vente ici, ainsi que quelques exemplaires de La Mélancolie de Zidane. Et puis Monsieur Toussaint se fera un plaisir de vous les signer. Donc une dernière question.
Il y en a une là aussi. Deux dernières questions. Il y a deux dernières questions.
Je voudrais savoir si vous avez définitivement renoncé à publier votre recueil de textes sur le football. Ce serait un résultat assez paradoxal de ce geste littéraire, le geste de Zidane à abolir le match, et votre geste littéraire abolirait votre match, peut-être. Pas dommage. Est-ce que ça veut dire que dans ce texte, Améopie de Zidane, vous avez rencontré vraiment un sujet qui ne pouvait pas être intégré à votre vision du football? Est-ce que votre vision du football a été révolutionnée par ce geste, à tel point que la situation devient impossible?
Ouais. Ça marche?
Attends, je réponds peut-être.
Je ne peux pas prendre le
coup. Le coup de boule. Je me suis beaucoup interrogé en fait sur la réception ou sur l'impact. Les autres textes, je les avais déjà écrits, ils avaient déjà été publiés, à part un qui est resté inédit parce que le livre ne s'est pas fait. Mais disons, ça me semblait une réflexion presque d'éditeur de me dire que l'impact serait beaucoup moins fort de réunir des articles qui étaient déjà parus ou de publier un seul texte inédit. Donc c'est une question, ce geste littéraire est plus fort en cela que il est à la fois inédit et d'une certaine façon il repose la question de la brièveté aussi. Il faudrait que je réfléchisse un tout petit peu plus là. Oui, sinon, j'ai pour l'instant définitivement renoncé à publier les autres textes, mais c'est peut-être provisoirement définitif.
Excusez-moi, d'autres
questions.
Si Zidane
va
lire votre livre, qu'est-ce qu'il pense sur votre livre?
Pardon, si Zidane?
Si Zidane va lire votre livre, qu'est-ce que tu penses?
Bah, je ne connais pas personnellement Zidane, mais je doute que ce soit exactement ses préoccupations. Enfin, je pense qu'il passerait, il serait surpris par le texte. Je crois, la seule réflexion que je m'étais faite, c'est que on a écrit tellement de choses sur lui, dans tous les sens, que finalement il doit lui rester une sorte d'indifférence devant tout ça, et donc à supposer que quand il l'a reçu, comme c'est très court, il a un peu regardé, ben, je pense qu'il a dû être assez indifférent. Et si ça marche bien, si j'en vends beaucoup, je ferai la suite, l'indifférence de Zidane.
Voilà, merci. Moi, je pense aussi à Zidane vieillissant, dans 20 ans, 30 ans, qui retrouvera ce petit livre comme une des seules preuves littéraires de son passage sur la Terre, et ce sera peut-être pas mal. Merci Jean-Philippe Toussaint.
Merci.
Merci Monsieur Canada. Merci à l'Alliance. Merci à tous. Au revoir et à bientôt.